à gagner de l'argent, le profil du professeur.
Bonjour tout le monde. Enfin, à 14h05, ce mercredi 7 mars 2018, il est enfin temps que Spectaculaire commence, émission 157, Christophe Rollin au micro, Gérald est là, ainsi que, il faut le dire, c'est quand même un insigne honneur pour nous, pour moi, de recevoir un invité, mais prestigieux, que je connais depuis quand même tout de même plusieurs années, disons, je le connais, il ne me connaissait pas, mais bon, nous vivions très bien séparément chacun de notre côté, donc voilà, je suis vraiment extrêmement honoré, attention. Attention, auditeurs, nous, Gérald et moi, respectons tous nos invités, c'est entendu, mais tout de même, Gavin Bryars est avec nous pour, à l'occasion de Calamity Billy, un diptyque du Paradis perdu, une pièce qui est pièce. Comment en parler, un spectacle qui est actuellement au Théâtre de la Croix-Rousse. Il sera ensuite à Chambéry, à Belfort, à Bourges, Échirolles, Andrézieux, Mérin, Saint-Quentin, Bruges, Rotterdam, et oui, ainsi que Budapest, mais même avant ça, il passera même à Oulin. Oui, puisque c'est une sorte de coproduction. Voilà, nous allons en parler pendant toute cette émission, comme d'habitude, jusqu'à 15h, et ce sera aujourd'hui mercredi, ainsi que demain jeudi, les 7 et 8 mars, c'est au Théâtre de la Croix-Rousse, et vendredi ainsi que samedi, ce sera à Oulin, avec le Gérard Lecointe, directeur d'Oulin, qui est également artiste directeur des percussions clavées de Lyon, et c'est donc la raison pour laquelle je vais commencer avec de la musique, puisque Gavin Bryars est compositeur. Écoutons One Last Bar, Then Joe Can Sing, puisque Gavin Bryars a un truc particulier avec les voix. Oui, il l'avait dit, et nous allons reparler pendant toute l'émission jusqu'à 15h, un poil un peu avant, vous allez voir pour quelle raison. Commençons avec de la musique, vous nous écoutez sur le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien vous le faites également aussi sur internet, vous avez tout à fait raison, radiocanu.org. Thank you. je n'ai pas annoncé ça, Gérald. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Tu es présent.
Bonjour, monsieur Gavin.
Bonjour.
Merci de nous avoir fait l'honneur de votre présence après Tapage Nocturne sur France Musique qui passera bientôt.
C'est un honneur de me trouver dans Radio Canute.
C'est très bien.
Canute.
L'honneur est partagé. Vous aimez, attaquons directement, vous aimez écrire pour la voix. Alors là, on n'a pas encore entendu de voix dans cet enregistrement. Je pense qu'il n'y en a pas dans ce One Last Bar, Then Joe Can Sing. Et pourtant, si Joe doit chanter, il devrait y avoir de la voix. Mais bon, vous avez écrit notamment pour Bertrand Belin ainsi que Claren McFadden pour ce spectacle qui s'appelle Calamity Billy, un diptyque du Paradis Perdu. Vous, c'est davantage la partie Billy the Kid.
Oui.
Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Est-ce que c'est Jean Lacornerie qui nous a parlé en premier ou bien Gérard Lecointe que vous connaissez? Puisque d'ailleurs, ce que nous écoutons à l'instant, vous l'avez enregistré. Enfin, disons, si. Les PCL, Percussions Clavier de Lyon, l'ont enregistré.
J'ai travaillé avec le PCL pour des années. En fait, les PCL sont presque créés par mon premier travail à Lyon. C'était à l'Opéra en 1984. J'ai fait m'aider. Et dans l'orchestre, j'ai décidé de supprimer tous les violons. Il n'y a pas de violons. J'ai remplacé ces violons qui ne sont pas trop intéressants par des instruments plus intéressants, c'est-à-dire 5 percussions de clavier. Et cinq personnes sont devenues les percussions clavier de Lyon. Et Gérard était là au début. Donc nous sommes amis depuis 34 ans. Et j'ai travaillé avec eux plusieurs fois. J'ai fait 2 commandes pour eux. J'ai joué avec eux. Gérard a joué dans mon ensemble au Mexique, à Nantes. Nous sommes grands amis. Et en fait, pour moi, c'était une espèce de logique de travailler avec lui. Parce qu'il est ami et il est devenu directeur du théâtre de la Renaissance. Et Jean Lacornerie était là. Il était allé à la Croix-Rousse. Les deux ont parlé ensemble pour voir si on peut faire ça. Quelque chose de théâtral. On a discuté plusieurs sujets, mais enfin, on a décidé de faire cette chose sur the West, le Wild West, Billy the Kid. Et c'était un texte de Michael Ondaatje, qui je connais aussi, je connais Michael. Mais ça m'a donné l'occasion de faire 2 choses, d'écrire pour les voix, ce que j'aime surtout, et de travailler avec mes meilleurs amis dans ma vie préférée dans la France. Voilà.
Ah, ça, c'est très bien. Les auditeurs seront contents d'entendre ça.
Je dis ça seulement pour ça, c'est vrai.
Néanmoins. Auditeurs, vous le savez, hein, nous connaissons, nous également, un spectaculaire, nous connaissons les percussions clavier de Lyon, puisque je vous renvoie à cela, de cela 4 ans en arrière, émission numéro 30, Raphaël Ageri était venu pour parler d'un spectacle qui était davantage sur d'autres œuvres, mais en refeuilletant, oui, moi aussi auditeur, il m'arrive comme ça de refeuilleter un peu le blog, je suis tombé sur cette information qu'il y avait déjà des orchestrations d'œuvres de Gavin Bryars qui étaient orchestrées précisément par Gérard Lecointe. Donc voilà, tout le monde connaît tout le monde et c'est très bien. Gérald, peut-être un petit portrait ou toi qui a écouté
Un petit portrait,
récemment.
Moi j'avoue, comme peut-être d'autres auditeurs, je connaissais un peu la musique américaine, anglaise, contemporaine, répétitive, minimaliste, mais je ne connaissais pas Shame Up on Me, Gavin Bryars. Alors il y a une page riche sur Wikipédia, un parcours vraiment impressionnant, une discographie monumentale. Je n'ai pas encore, je l'avoue, consulté votre site personnel qui est une mine d'or, on m'a dit. Beaucoup de collaborations, ça commence par du jazz, des études de philosophie. Vous êtes né à 2 heures au nord de Londres, dans le Yorkshire.
Oui, voilà. Là, j'habite le Yorkshire et 4 heures. Non.
Vous commencez à hésiter à une carrière, vous commencez par jouer de la contrebasse, vos deux filles jouent du violoncelle, vous avez toujours aimé cet instrument, le violoncelle, la contrebasse, votre femme je crois aussi. Bref, vous commencez à être musicien, parallèlement à des études de philosophie à l'université, et puis un jour vous décidez de vous consacrer pleinement à la musique, et vous commencez dans les années 60 à participer à un trio de jazz.
Oui. Derek Bailey et Tony Oxley, qui sont deux des plus grands improvisateurs du monde à l'époque. Mm-hmm. Derek est mort il y a 12 ans, mais nous restons amis. J'ai travaillé avec eux, j'étais étudiant. Ils sont deux musiciens qui habitaient dans la même ville, à Sheffield. Et par hasard, j'ai joué dans un club où ils jouaient aussi. On m'écoutait et je suis invité à travailler avec eux. Et on a travaillé ensemble pour presque 5 ans, jusqu'à 66. Et en 66, j'ai fini complètement jouer du jazz. J'ai mis mon contrebasse dans sa valise et ça n'a pas sorti pour 17 ans. C'est très dramatique. Et j'ai commencé à écrire la musique. J'ai passé du temps en travaillant avec Cage aux États-Unis, où Ben Johnson était aussi là avec Cage.
Ah, donc, il est compositeur de la première partie de ce spectacle.
On y reviendra un petit peu quand même.
Oui. Ben est devenu un ami, mais j'ai commencé à écrire de la musique à cause de Cage. Et peu à peu, donc je me trouve dans un milieu expérimental à Londres quand je suis revenu aux États-Unis. Et peu à peu, j'ai fait beaucoup plus de choses. Mais après mon première performance dans la France, c'était dans le Festival d'automne à Paris en 79. Il y a des gens qui sont venus pour l'écouter, pour faire une recommandation à Bob Wilson pour faire du théâtre avec lui. Mm-hmm. Et à cause de ça, ça s'est devenu l'Opéra Modère. Après ça...
84 opéra, c'est ça.
84. On a fait ça en 92, mais... 82, mais c'est, pour Venise, mais c'était annulé. Mais c'était finalement 84. Et à cause de ça, quand on a fait quelque chose comme ça, on se trouve dans un plus grand milieu public. C'est pas comme petit ghetto expérimental à Londres, c'est beaucoup... Je travaille avec des chanteurs bien connus, Jesse Norman, des choses qui me prennent au sérieux, qui ne peuvent pas jamais faire ça quand je suis dans ce milieu expérimental. Donc, peu à peu, je travaille avec des très bons exécutants, par exemple, en performance, des chanteurs comme le Hilliard Ensemble, Quatuor de Cordes, Aditi, des gens, c'est les meilleurs du monde. Et donc, après ça, peu à peu, j'ai fait plusieurs choses. Maintenant, je me trouve sur mon cinquième opéra. J'ai écrit, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de ballets. J'ai fait une douzaine de concertos.
Vous serez à Bordeaux prochainement pour justement une composition. C'est une création originale à Bordeaux pour Karin Carlsen.
C'est fait à Bordeaux il y a 4 ans. C'est en refait.
Une reprise.
Oui. Donc, je suis là vendredi soir. Samedi, j'arrive ici. Mais avant Bordeaux, je suis à Lyon, je descends chez moi pour changer les vêtements, j'ai pris le train à Bordeaux, je travaille à Bordeaux, je suis ici, je descends à Paris pour faire des choses de radio, tout ça. Mais mon focus absolu, c'est sur Lyon, sur nos projets ici, et Bordeaux, c'est quelque chose, puisqu'on refait ça, c'est seulement pour vérifier si vraiment les musiciens sont bien, les danseuses restent bien, et en fait, ils sont. Mais quelqu'un m'invite pour ça et on prend la pause et on prend un verre de champagne. Après, c'est pas mal. On fait un bord de vin de Bordeaux, qui est mieux.
Voilà, un peu de Côte du Rhône à Lyon et puis.
Et voilà, ou Côte Rôtie même, c'est mieux. Vous l'aurez compris, chers auditeurs. Monsieur Barrios a une vie trépidante, celle des grands musiciens qui ont une carrière internationale et qui passent leur temps en voyage à rencontrer beaucoup de gens et à faire beaucoup de collaborations. Oui. C'est ça votre vie depuis les années 69, on va dire.
Oui, mais je continue à. Il me prend grand plaisir de faire des collaborations parce que, en général, un compositeur, en tant que vie assez. Dans la solitude, on compose dans la solitude et éventuellement ça arrive chez un public, mais en général, c'est un chef d'orchestre qui dirige. Vous, ça se trouve dans la salle et vous n'avez rien à faire. Mais moi, j'ai écrit des choses pour moi à jouer aussi. Et si on a une collaboration, il faut penser dehors de son propre route. Par exemple, si on travaille avec un genre des beaux-arts, ils pensent d'une différente façon, des différentes structures absolument, avec la danse, au théâtre, et c'est bien, on pense à des autres. Et pour moi, c'est un peu comme la musique elle-même, parce que dans la musique, c'est pour moi, ce n'est pas seulement les jolis sons, les beaux mélodies, etc. C'est une chose sociale, on travaille avec des amis, des collègues, et on les écoute très soigneusement, on ajuste ce qu'on fait par rapport à ce que font les autres. C'est pas comme dans un orchestre où il y a un chef qui dirige, on fait ça, il vous indique, vous jouez. Dans un petit ensemble du jazz ou de la musique de chambre, c'est différent. Et c'est comme une famille et on a une relation avec chacun, et chacun a son propre personnalité. Et c'est pourquoi, pour moi, cette pièce ici, c'est un opéra de chambre. On n'a que deux chanteurs, et une petite formation de 6 musiciens. En effet, quelquefois on dit il y a une seule musicien, une seule musicien et 4 percussionnistes, parce que nous, c'est un seul violoniste. Mais il y a 6 personnes qui jouent les instruments. Donc ça, c'est très personnel. C'est dirigé par Gérard, mais en fait, c'est possible de jouer sans direction, et surtout sans chef. Oui. Mm. Donc c'est une pièce très contenue. On n'a pas besoin des gens qui donnent une espèce d'autorité. On écoute par un clown qui chante, on fait des ajustements, on fait des balances. Et c'est comme jouer avec un chanteur du jazz ou avec un saxophoniste. Et
c'est la pied d'égalité, la création collective, pas
oui,
de chef.
Oui.
Vous êtes un peu libertaire sur les bords.
Radio Canus, c'est très bien, ça tombe bien.
Oui, c'est un peu anarchiste. Mais parfois, des gens sont un grand peu de l'anarchisme. Pour moi, l'anarchisme n'est pas une chose d'avoir peur, parce que l'anarchisme, c'est seulement une espèce d'ordre où il n'y a pas de chef.
C'est ça.
C'est une chose collective. C'est pas le chaos. C'est un ordre différent.
Ah là là, je demande beaucoup d'autodiscipline.
Je ne suis pas sûr qu'on va vous laisser sortir, hein, Gavin Bryars, parce que vous allez devoir rester ici. Vous serez plus qu'une mascotte. Vous ne pouvez pas être le leader à Radio Canus. C'est pas possible. Non, il n'y a pas de chef, mais une inspiration. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est temps de vous laisser peut-être un peu souffler. Et nous pourrions écouter, par exemple, j'ai un enregistrement gracieuseté, privilège, insigne auditeur que vous avez, que nous avons tous aujourd'hui. C'est, on va pouvoir écouter, on va pouvoir se dire qu'on est mercredi 7 mars ou bien mardi 6 mars, il est plus de 20h, hein, parce qu'à 20h c'est la première partie, c'est Calamity Jane, et il doit être donc plutôt 20h40, 20h50, et alors là même pour le coup cet extrait c'est peut-être davantage la fin. William est mort, c'est le début, donc nous avons pu mettre la main, il faut la remercier, merci Héloïse, nous avons pu mettre la main sur un enregistrement du Théâtre de la Croix-Rousse, et bien écoutons, puis peut-être comme ça cela pourra vous permettre, Gavin Bryars, de commenter un peu, et puis je pense qu'il faudrait revenir un peu sur la collaboration avec justement Michael Andaji, c'est-à-dire comment est-ce que la sélection des textes s'est faite, et puis ensuite aussi avec Jean Lacornerie, comment est-ce que la scénographie, non, comment la mise en scène, puisque scénographie, Marc Lenné,
attention, il ne faut pas tout mélanger,
donc écoutons quelques...
Il y a 4 régisseurs, il y a peu de monde, mais très efficace.
Donc écoutons cela, et puis nous continuons. Agréable, hein, enfin, disons, c'est amusant, auditeur, mais ce n'est pas du Gavin Bryars. Ce n'est pas du Gavin Bryars. Ce n'est pas non plus du Ben Johnson. Il m'était pourtant indiqué éventuellement pieds nus, ce qu'on
petite
pourrait
erreur de fichier.
Essayer un autre.
Les joies de l'informatique.
Non, alors, ce que je me dis, c'est est-ce que.
Voilà, ça c'est comme dit sur l'anarchisme, n'est-ce pas?
Ben voilà, au cas où il va falloir meubler, vous êtes bien sur Radio Canus, d'ailleurs, ce genre d'événement peut arriver.
Je crois que c'est plusieurs fois le même fichier.
C'est les inconvénients du direct.
On dirait que c'est plusieurs fois le même fichier.
On nous a refait des fichiers, pas défectueux, mais qui sont étranges.
Bon, ce n'est pas grave, mais c'est toujours difficile de parler de la musique. Si, en fait, il va y avoir un expédient. On va écouter plutôt des voix. Nous allons écouter les deux voix de à la fois Cleveland McFadden et puis Bertrand Belin.
Passage.
Ils sont. Ce sont des répétitions. C'est tout à fait disponible, accessible. Rendez-vous sur le site. Vous êtes sur le site, comme nous à l'instant, le site de la Croix-Rousse. Quoique moi, je l'ai mis sur le blog. Hein. Si vous êtes sur le site, sur le blog de la Croix-Rousse, vous pouvez parcourir cela dans la partie des bonus. Vous pouvez un extrait de Johnny Guitar. Ce n'est pas un extrait de Destry Right Wides Again. Ça aurait été très bien d'avoir également cela. Il y a aussi. Il y a différentes choses. Et donc, vous pouvez avoir un extrait de la répétition. Ah, mais nous avons toujours le. On va essayer d'être moins dérangé par cet extrait. Là. Je ne sais pas ce que c'est que cet extrait. Allez, hop, nous quittons l'extrait. Nous allons bien avoir à présent Cleveland McFadden avec Bertrand Belin, qui chante parfois en français. Mais là, c'est extrait des répétitions. Et c'est
plutôt.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe, en fait? Quel problème y a-t-il? Est-ce que cela viendrait de... Oui, oui, je suppose que je ne sais pas ce que procède... Oui, Gérald, tu disais qu'il fallait meubler un petit peu.
Oui. Juste.
Pourquoi est-ce que nous n'avons pas la répétition de la répétition de Clara McFadden avec...
Pendant
avec...
qu'on règle le problème technique.
Incroyable. Non, non, c'est...
Il y a aussi... on a eu des cadeaux. Il y a beaucoup d'autres musiques à écouter. Hein.
Oui. On peut peut-être parler du problème, spectacle. On ne peut pas avoir... Je ne sais pas, Gérald. Je ne sais pas. Il va falloir qu'on procède avec autre chose.
Moi, j'ai une question, alors.
Oui.
Monsieur Brothers, vous avez fait des études de philosophie. Ça va peut-être vous ramener très très loin en arrière, mais dans quelle mesure vos études de philosophie vous a influencé dans votre conception de la musique? Comment la philosophie a irrigué votre manière d'abord de jouer, peut-être de concevoir la musique?
Pas beaucoup, mais à l'époque, quand j'ai étudié la philosophie, ils sont deux choses complètement différentes. Mais éventuellement, j'ai trouvé dans la philosophie, maintenant, quand j'ai écrit, une espèce de clarté dans la pensée, une espèce de... On sait bien la logique, mais on peut faire un départ du logique. On peut faire des choses plus improvisées et on peut avoir une approche, on peut dire, philosophique, mais c'est pas la philosophie.
D'accord. Non. Vous avez eu des influences, vous parlez de John Cage.
Oui, oui, et la musique de Cage, et plein de philosophie, et beaucoup du monde connaît mieux la philosophie de Cage que sa musique. C'est pas trop joué, mais tout le monde sait de penser de Cage, ce qu'il a écrit, ce qu'il dit, tout ça. Si vous voulez, je voulais quelque chose, une chose ici.
Oui.
Moi, ici, je joue sur le contrebasse un morceau que j'ai arrangé de Tom Waits.
Parce
que
voilà, on va écouter ça va être parfait.
C'est The Briar and the Rose.
On va écouter un album, Mercy and Ground, la musique de Tom Waits et Kathleen Brennan. Et on va écouter donc Monsieur Briar, ici présent. Désolé
parce
pour cette.
Parce que c'est moi, j'ai fait une collaboration avec Tom, mais j'ai fait cette disque, cette. Les chansons de Tom, mais chantées par une femme, pas par Tom. Et toute la musique est arrangée par moi. Et c'est moi qui joue la contrebasse. Brian the Rose, c'est enfin Brian the Rose.
Alors peut-être qu'on pourrait faire Gérald, on pourrait peut-être écouter ça tout à l'heure. Nous avons retrouvé, c'était comme d'habitude des problèmes techniques, mais qui sont tout à fait réglés. Regardez, on a du Gavin Bryars. Regardez, c'est bien ça. Attention, ça va commencer, ça va être... Ah, c'est magnifique. là, l'auditeur, ça a marché. On était carrément sur... sur le plateau, à la Croix-Rousse, ou bien on était à Oullins, à la Renaissance. Alors c'est pour la Croix-Rousse, répétons peut-être un peu les dates, ça a commencé hier soir, mardi 6, c'est encore donné ce mercredi 7, ainsi que demain, jeudi 8, et puis ce soir, bord de Seine, à 21h45-50, c'est-à-dire une fois que le spectacle s'est terminé, une grosse heure et demie sans entracte, mais c'est bien les spectacles sans entracte, comme ça on enchaîne, il n'y a pas d'attention qui
en anglais surtitré, faut
qui se disperse.
Il y a des passages chantés en français, d'autres en anglais, l'anglais surtitré.
De l'anglais surtitré.
Surtitré en première partie par des étudiants de master d'art de la scène de l'Université Lyon 2 et de l'ENS de Lyon.
Vendredi ainsi que samedi.
Et toutes les choses parlées, pas bêtement sont en français.
Voilà.
Oui, voilà, les textes parlés.
Donc, quand un narratif, c'est très.
N'ayez pas peur, auditeur. Les parties, on comprend l'intrigue, on comprend donc première partie Calamity Jane et
c'est
deuxième partie
plus courte. C'est un spectacle déséquilibré, pas dans l'esprit. Il y a beaucoup de fragments, de lettres, de textes. La première partie
Calamity Jane, composée par
Ben Johnston, est un peu plus courte, même largement plus courte que la deuxième. Mais elle nous met comme une sorte de hors-d'œuvre.
Oui.
C'est un hors-d'œuvre qui nous met dans l'ambiance de l'Ouest sauvage, un Ouest vraiment mélancolique. On parle beaucoup en ce moment de l'actualité trumpienne, les fusillades américaines comme depuis des années. Et ce regard porté sur le 19e aux États-Unis nous donne un aspect de la culture américaine très très étrange, très nostalgique. Et la musique que je trouve personnellement très nostalgique, mélancolique de Gavin Bryars, hypnotique, zen, nous plonge, nous met dans un état un peu second pendant 1h40.
Avec des illustrations aussi.
Tous à aller voir ce spectacle magnifique.
La deuxième partie est bien plus riche que la première.
Et c'est du théâtre musical, mais tous les ingrédients sont là.
Il y a du cinéma,
il y a très peu de cinéma qui n'est pas redondant avec la scène, ça apporte quelque chose.
Une forme d'écran sur lequel sont dessinés, sont faits des dessins. On parle en même temps, Gérald, c'est absolument...
On vient d'écouter la voix de...
Clarence McFadden, je l'avais indiqué, oui.
Soprano lyrique, très belle voix, très belle présence.
Vendredi 9 mars, ainsi que samedi 10, pour les auditeurs qui sont davantage sur les pentes, mais qui sont davantage vers Oullins ou bien un autre endroit de Lyon, n'importe, vous pouvez tout à fait vous rendre au Théâtre de la Renaissance. C'est devenu d'un caractère pratique absolument stupéfiant, cette ligne de métro qui a été prolongée, ça fait quand même des années, mais c'est incroyable, hein. On prend le métro et zou, on est à la Renaissance. Ah oui, il faut marcher un peu, mais alors vraiment, pour le coup, c'est peu. Il y a 100 mètres, hein, il me semble, et on est à ce théâtre.
Et il y a deux voix, donc deux duets. On dit deux duets.
Duets, c'est en anglais le terme.
Voilà.
Donc on
prend le spectacle et leurs voix s'accordent parfaitement bien, très très étrange, vraiment très éloigné, quoi.
Eh bien, laissons Gavin en parler.
Voilà. Ces voix, de ces voix-là.
Les duos.
On va avoir.
Ce que j'aime beaucoup, parce que j'ai écrit pour Clarence, ça c'est un soprano classique. Je connais comment écrire pour ça, mais Bertrand, il est autre chose. Et Bertrand, il ne lit pas la musique, donc il faut travailler, beaucoup de travail pour ça. Et donc, j'ai fait des chansons pour lui seul, mais j'ai trouvé que quand il arrive ce duet, quand il le mélange des deux voix qui donnent un troisième son, c'est un mélange très riche, la pureté de Clarence et le un peu rough.
Rocailleux, on dirait en français.
Oui, un peu, mais il est très élégant, il est très bon accordé,
oui.
Mais il y a une espèce de chose presque improvisée dans sa voix. Mais il est parfaitement in tune. Et les combinaisons des voix, c'est incroyable. Et ils aiment les deux chanter ensemble. Ça, c'est très bon pour moi.
Et on l'entend, ça on l'entend.
Il y en a un là qui est prêt. Après, ça devrait marcher pieds nus dans un grand silence. C'est un duo. Est-ce que ça va bien fonctionner? Oui, ça marche.
And I read
Vous êtes bien sûr Radio Canu et on écoute le spectacle qui se donne actuellement au Théâtre La Croix-Rousse, avec, donc, en présence de Gavin Bryars.
C'était
qui a composé,
c'était
qui adore composer pour les voix.
Que nous entendions, voilà. Pourquoi? Pourquoi ce goût? Pourquoi cette envie de composer pour les voix?
Pour les voix?
Oui.
Parce que ça, c'est le son original. Les instruments arrivent après. Et la première chose qu'on essaye de faire, c'est faire des sons par la bouche. Et quand on chante, on est son propre instrument. On peut dire, il n'y a pas aucune chose séparée de vous et l'instrument. Vous êtes l'instrument.
Oui, mais alors, n'est-ce pas justement, précisément pour cette raison, n'est-ce pas difficile, voire très difficile, de composer pour une voix plutôt que de composer pour un instrument, un violoncelle, une contrebasse ou bien des percussions?
Oui, est-ce
que c'est plus compliqué.
C'est plus simple de composer pour les instruments, mm-hmm. sans doute. Mm-hmm. Et on peut apprendre toutes les techniques, tout ça. Et moi, je joue des instruments aussi. Et ce que j'aime pour écrire pour les voix, c'est exactement parce que il est plus difficile. J'aime la difficulté et j'aime le challenge de faire une chose où on peut faire quelqu'un. Si quelqu'un chante, si j'écris quelque chose, quelqu'un peut chanter et on trouve sa propre voix. L'essentiel de la voix, ça c'est un énorme plaisir. Et on voit dans la tête de la femme qui chante qu'on a ce plaisir, qu'on a trouvé sa voix. Et quand on fait le mélange de deux voix, c'est plus compliqué. Avec un chœur, c'est moins compliqué. Mais avec, disons, quatre voix seules, ça c'est très compliqué. Avec, par exemple, Hilliard Ensemble, qui est trois voix seules. Mais il faut... En général, si on essaye d'écrire pour une voix et on n'a jamais écouté cette voix, ça c'est très difficile. On peut dire, je peux jouer de 7 do à 7 do, mais ça ne vous dit rien. Il faut écouter l'essentiel et être dans la compagnie des gens avec qui on va travailler. Par exemple, pour cette opéra, j'ai écouté Bertrand en concert en juin à Paris. Donc j'ai écrit trois pièces au début pour lui. Mais j'ai trouvé, après que nous avons travaillé ensemble en décembre, et j'ai écrit plus de choses, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est à ce moment où j'ai commencé à faire ces deux duos. Et je trouve que voilà, maintenant je connais très très bien la voix de Bertrand. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que les deux chanteurs m'ont demandé, est-ce qu'on peut faire plus de choses ensemble, les deux? Et ça, c'est un grand plaisir pour moi. Ça veut dire que j'ai succédé, oui.
Et alors vous avez une réponse, oui? Est-ce qu'une autre commande pourrait arriver pour Bertrand Belin et Claren McFadden, faite par vous-même, Gavin Bryars?
Oui, mais peut-être que je peux faire ça sans être payé. Mais peut-être j'ai déjà décidé sur les ondes, voire, mais je suis perdu. Il faut tout faire. Parce que j'ai dit, I will do it for nothing.
Gérald, encore une ou deux remarques, enfin du moins encore, parce qu'on aurait certainement beaucoup à faire, mais on pouvait peut-être revenir, est-ce que cette distribution d'ailleurs, Bertrand Belin et Claren McFadden, est-ce qu'elle vous a été imposée, c'est ça, ou c'est vous qui avez demandé, je souhaiterais un peu une voix un peu grave?
Non, et puis le choix des voix, c'était à Jean Lacornerie. J'ai pas aucune chose sur ça.
Déjà pensé.
Mais je connais la voix de Claren, j'ai écouté des enregistrations, j'ai vu sur YouTube, etc. Je ne connais pas du tout Bertrand, mais Jean et moi, nous sommes allés à un concert de Bertrand à Paris. Il était bien, bien comme chanteur, mais aussi comme personnage sur
le
plateau.
Il incarne un bon Billy the Kid.
Oui, ouais. Et quand il parle, et j'aime beaucoup son groupe. Son groupe, les deux autres musiciens sont incroyables. Nous avons bu quelque chose après, et on a déjeuné le prochain jour, et on a échangé des idées, et je suis convaincu. Dès ce moment que lui, il a le propre choix. C'est un très bon choix pour la voix.
Il faut dire que les deux, acteurs aussi, chanteurs, ont un charisme très très fort.
Oui, oui.
Et ça commence dès le début du spectacle. Je ne vais pas spoiler le truc, mais on est dans une ambiance vraiment très très étrange, avec une petite lampe à pétrole, oui. une mise en scène.
Allez,
et une scénographie
très sombre,
plastique. Il faut quand même qu'on parle aussi de la scénographie plastique, qui est excellente. Dans la lignée de William
Kendridge,
traité de manière différente, et Zimmery, il y a des très très beaux travaux graphiques plastiques.
Une partie supérieure du plateau est occupée par
un espace vidéo qui est très plastique, avec de la planches. Courelle du fusil. fusains, des roues, des images qui se constituent devant nous. Il y a un passage sur le cimetière, sur les croix. On voit une main au travail qui dessine soit des calligraphies, des textes très forts. Et ça, c'est très, très, très efficace. Ça ne vient jamais en trop, en redondance avec le reste. Tout est parfaitement équilibré. Je parlais tout à l'heure des régisseurs. Il y a un régisseur plateau, lumière. Il y a quatre régisseurs. On va pas nommer on n'a pas nommé l'ensemble non plus des.
Je cherchais son nom,
clavier.
C'est Stéphane Zimmermann.
C'est un très, très beau travail de collaboration. Global.
Stéphane qui dessine et c'est avec des c'est couleurs très, beau, très différentes et puis parfois des accélérations, c'est-à-dire des coupures.
Si on dit qu'il y a des projections, il y a du vidéo dans la pièce de théâtre, on dit oh merde.
Ouais,
c'est
ça.
Ici, c'est
très beau.
L'opposé. C'est
comme
très
avec
subtil,
Kendrick.
Très
discret. Oui,
très discret et très très beau.
Magnifique. Ça apporte quelque chose.
Avec cette esthétique western, puisque
il y a un côté minimaliste, il y a beaucoup de gens faisant de choses et ça reste quand même minimaliste, très pur.
Il est écrit The Collective Works of Billy the Kid, puisque donc au tout départ c'est un texte écrit par Michael Ondaatje, il y a de cela des années, oui, c'est
oui,
un texte.
Oui, c'est un des premiers livres de lui dans les années 80 peut-être.
Alors est-ce vraiment un texte écrit ou ce sont des écrits de Billy the Kid? Alors comme pour Calamity Jane,
c'est un texte écrit. Il a composé des poèmes. Les poèmes pour la main gauche.
Pour la main gauche, c'est ça, left-handed.
Donc, il y a des poèmes dedans, dans cette livre, et des choses narratives sur Pat Garrett, sur son mort, tout ça.
Et alors, de quelle main? Est-ce que c'est de la main de Billy the Kid ou c'est de celle de Michael Ondaatje?
C'est Michael Ondaatje qui
a tout écrit.
Qui est Billy the Kid pour ses poèmes, oui.
D'accord. Donc, c'est un peu comme la première œuvre aussi, Calamity Jane. Ses œuvres, a priori, c'est pas tout à fait authentique.
Ça, c'est pas grave s'il y a une qualité littéraire.
Ah ben voilà,
on s'en fout. Hein.
Il y a quelque chose qui passe, oui. Moi, je veux bien encore parler avec vous, Gavin, mais je vois l'heure, je vois qu'il est que moins 20 est passé.
Mais vous savez beaucoup de mieux.
Oui, oh ben oui. Alors ça,
on va se dire au revoir. On va passer.
C'est moi qui joue le contrebasse.
Ah ben oui.
Mais c'est la musique de Tom Waits que j'ai arrangée. Donc voilà.
Voilà, The Briar and the Rose.
The Briar and the Rose, oui.
Ça, il faudra en reparler de ce Jesus Blood, puisqu'il y aura une performance dans un an, au mois d'avril. 12 heures, toute une nuit entière.
Et ça, on a vu la prochaine année.
Oui, c'est 2019, hein, c'est bien ça. Oui, c'est pas pour tout de suite. Donc, tout d'abord, écoutons pour l'instant le titre. Tu m'as donné, oui, tu m'as dit que c'est
The Briar and the Rose, oui.
Alors, ça se cale, attention.
18.
Oui, mais écoute.
Et c'est moi qui joue le contrebasse un peu comme Charlie Hayden.
Ça vous rappelle votre trio de jazz et votre période de contrebassiste.
laisser sur les derniers instants de ce morceau que Gérald et moi venons de dire au revoir à Gavin Bryars qui l'avait annoncé en début d'émission. Je ne sais pas si moi j'avais été très clair, il ne pouvait pas rester jusqu'au terme, donc voilà, il est parti. Gérald de la raccompagne, il va revenir. Pour l'instant, voilà, je suis seul. Nous écoutions un extrait de, Gérald me le redira, une œuvre de Gavin Bryars composée pour contrebasse, c'est d'ailleurs lui qui joue, guitare électrique et voix. Alors c'est voix de femme qui au début marmonne un peu et enfin là, il me semble qu'on l'entend chanter quelques mots. Gérald est de retour. Gérald, tu as dit au revoir à notre...
Oui, on vient de m'accompagner, monsieur Bryars, qui est vraiment très 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 sympathique. Et c'était un honneur qu'il soit là. Et il va peut-être revenir d'ailleurs
au mois de septembre. Chouette.
Ce serait génial.
On en reparlera.
Parce que c'est trop court pour parler de tout ça.
Ah là là.
Que dire encore? Surtout quand on a des problèmes techniques.
C'est ma faute, ma pleine et entière faute. Gérald, que dire encore
Moi, je reviendrai bien au spectacle parce qu'on n'a pas fait justice à tous les collaborateurs de ce spectacle, à commencer par quand même Jean Lacornerie, qui est le metteur en scène. Donc il y a un très beau travail, une vision de l'Ouest qui est atypique, qui est nouvelle, parce qu'on n'a pas l'habitude. Bon, parce que tous ces personnages qui ne se sont jamais rencontrés, c'est précisé, ce sont des personnages de légende. On a des listes de morts.
Les mêmes
c'est beaucoup
années.
Plus simple que ça.
Donne leur date de naissance.
Alors, ils sont contemporains, donc ils auraient pu se croiser.
59.
Puisque Billy the Kid est né en 59 et Calamity Jane, donc 1852. Ils ont 7 ans d'écart.
Mais.
Bon, ils ont des parcours très, très, très atypiques.
Ah, j'aime bien les mots, tu les retrouves sur elle, c'est la femme, la femme androgyne, la femme homme, et lui, c'est l'homme enfant.
Qui finit qui rencontre le général Custer, qui contribue à combattre les Amérindiens. Il y a très peu d'Indiens, ce n'est pas un western au sens hollywoodien classique du terme, vous ne verrez pas d'Indiens. Il y a quelques allusions, mais il y a des figures de l'Ouest, le sable, je ne vais pas parler de tout, mais des accessoires de scénographie, aussi un masque qui renvoie à toute la mythologie de la conquête de l'Ouest, voilà, des seaux avec de l'eau dedans, mais les seaux peuvent servir aussi à faire des percussions. C'est ça qui est intéressant au spectacle. Les ingrédients et toutes les matières de l'expression communiquent entre elles dans une parfaite harmonie qui crée une ambiance fascinante, saisissante et envoûtante.
Est-ce que nous avons dit que les musiciens sont présents sur scène, les percussions clavier de Lyon.
Ils sont acteurs aussi parce qu'ils interviennent.
Dirigés par Gérard Lecointe et ils sont en costume.
Et les musiciens, les instruments de musique sont très bien, les costumes sont très bien.
Avec chapeau haute forme, c'est ça, et ou long.
Dans la première partie, plus courte que Calamity Jane. Il y a des recettes de cuisine, une scénographie simple et purée qui est très efficace. Il y a une scène avec une robe qui est assez terrible parce qu'elle est assez. On pense à la veuve noire, quoi. C'est un peu habité par la mort. Il y a une nostalgie quand même très présente. On sent que c'est alors ce paradis perdu. Je ne sais pas si c'était un paradis. C'était un monde assez violent, assez cruel. On pouvait se prendre une balle dans la tête de la minute. D'une minute à l'autre, mais ça n'a pas bien changé en même temps aux États-Unis. C'est un spectacle d'une grande actualité, paradoxalement.
Alors attention Gérald, toi qui me taquinais, sache qu'on ne me taquine pas impunément, je vais te renvoyer l'appareil, voilà, mais là la différence c'est qu'un micro est devant toi. Que vas-tu répondre à ce que je vais te lancer?
Ah.
Et le perroquet
Gérald. Alors voilà, alors la chose peut-être qui m'a peut-être laissé un peu de marbre, ou que j'ai trouvé, on va dire, pour employer un mot rare, superfétatoire, c'est une ombre portée qui correspond à un moment du texte où on voit apparaître une silhouette de perroquet. Ce serait vraiment le petit bémol léger que je dirais sur ce spectacle, parce que le reste est absolument bon. Même le public de Lyon est toujours un peu froid, toujours un peu mou, pas très très dynamique, il manifeste jamais ses émotions, ça on le sait, hein.
Ouais, il y a eu quand même quelques bravos criés.
Oui, il y a des bravos, heureusement, mais il y a une réserve toujours dans le public lyonnais. Alors, a-t-il été apprécié? Moi, j'invite vraiment les gens à aller le voir, parce que c'est un moment de voyage. On sort de soi, on sort de son cerveau, on voyage, et c'est magnifique, parce qu'on est porté par cette magnifique musique. L'univers de Gavin Bryars qui vient de nous quitter est tout de suite reconnaissable et d'une cohérence absolue. Et on est porté par sa musique. Je ne sais pas comment on peut résister pour ne pas adhérer à ça et se laisser transporter, porter par ces ensembles qui, lui, préfèrent justement abandonner les cordes pour des ensembles de marimba. Alors, on voit, justement, j'ai eu la chance après, hier, la première, de parler avec une des six musiciennes de l'ensemble.
Ah bah, a priori, c'est la seule femme.
Voilà,
alors, hein.
Celle qui fait de la marimba basse, qui fait un peu le rôle de la contrebasse, qui s'appelle Sylvie Aubel, qui a eu la gentillesse de m'accorder quelques minutes d'entretien, qui m'a dit que le grand gong n'est pas un gong parce qu'il n'a pas de timbre, il n'a pas de tonalité, c'est un tam. Et vous avez des petits instruments qui font des sons exceptionnels, comme des petits craquements, des petits claquements de dents quand on a peur la nuit. Ça va très bien avec l'ambiance tête de mort, tête de vache dans le désert, hein, désert de la mort là. Et ça fait clac, 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 clac des petits sons. C'était Woodblocks, il y en a 3. Il y a des instruments très étranges et ouais, il y a une dimension exotique, quoi. Et elle vient vers nous grâce au théâtre de la Croix-Rousse.
on peut indiquer.
Moi, j'ai envie de lire.
Je tiens à dire,
on va finir.
Il y a une tournée, une petite tournée. On pourra évoquer à nouveau les dates et les lieux, parce que les lieux, c'est quand même fabuleux, quoi. Ça va drôlement voyager. Je t'en prie, Gérald.
La note d'intention, c'est quand même important.
Ah, bah oui, bien sûr.
On a parlé de la scénographie, Zimmery, plastique très très belle. Zimmery?
Zimmerly,
pardon, j'écorche son nom.
Stéphane.
Ouais. Les six musiciens. On n'a pas assez développé la première partie de Johnston, le maître de la musique microtonale, mais on ne peut pas parler de tout.
Oui.
Moi, j'ai envie de citer quand même la note d'intention. Hein. Faisons-le, parce qu'il faut le faire.
Déjà la cornerie.
Voilà, il faut la dire. Je vais la lire en entier, parce qu'elle est bien. Le point commun entre les deux textes est de donner une vision à contre-courant de ces deux figures de l'Ouest américain, une vision intime, secrète, comme une confidence qui ne serait à nous seuls réservée. On a longtemps cru que les lettres de Calamity Jane à sa fille étaient authentiques. Il s'est avéré qu'elles étaient fausses. Alors, je rajoute, certains veulent y croire encore tant ces lettres sont belles, tant elles paraissent justes, comme si la féminité de Calamity cachée dans les plis de ces lettres donnait plus d'épaisseur à la légende de cette figure phallique qui défiait le monde d'hommes des pionniers de l'Ouest. Elle finit dans un spectacle de Far West, hein. Elle meurt d'une pneumonie en 1909 ou alcoolique. Ces lettres, le maître américain de la musique microtonale, Ben Johnston, s'en est emparé pour les mettre en musique pour une voix de soprano. Très belle. Une batterie, le compositeur invente une nouvelle gamme en quart de ton. Alors ne soyez pas surpris par la dissonance travaillée, programmée informatiquement pour les quarts de ton des premiers instruments qui donne une tonalité sépia. Alors le sépia, on le retrouve aussi dans la plasticité visuelle vidéaste de Zimmerly, qui est très belle aussi. Comme les photos un peu floues qui nous restent de Martha Canary, le vrai nom de Calamity. Un langage tout à la fois contemporain et nostalgique. Avec Gérard Lecointe, nous avons eu l'idée de demander au compositeur Gavin Bryars de prolonger l'esquisse de Ben Johnston par une adaptation du recueil de Michael Ondaatje, Billy the Kid, œuvre complète. Il y fait un portrait intime d'une figure de l'Ouest qui défait aussi les canons de la virilité. Le Kid, celui qui garde au grand jour la trace de son enfance. Pour le livret, nous avons centré l'adaptation sur les poèmes. Sous-titré par Ondaatje, poème du gaucher, Gavin Bryars, qui sait mieux que personne amplifier la résonance de la voix humaine, a écrit pour un chanteur de blues Bertrand Belin et une soprano lyrique, rappelons-le, Claren McFadden, dans le paysage sonore des percussions clavier de Lyon. Loin des bandes-sons des films d'action. Ah, petite citation. Cet univers méditatif, c'est vrai, permet la constitution progressive d'un paysage sur la scène, l'apparition d'un geste dans la flamme chétive d'une lampe, des éclats, des fragments de scène propres à réveiller en nous la nostalgie d'un monde libre. Alors, moi je dirais plutôt d'un monde libre, vraiment libre, parce que c'est le fameux monde libre, et on sait ce qu'il en advint.
Vous cruel. Vous pouvez encore, auditeur, vous pouvez encore voir ce spectacle. Enfin, vous pouvez tout à fait, puisqu'il ne vient que de commencer. C'était à peine hier, mardi 6 mars, au théâtre de la Croix-Rousse. Il continue donc ce soir ainsi que demain à la Croix-Rousse. Ensuite, le jeu de déplacement vers Oulin, les vendredis 9 et samedi 10. Et puis après, une petite pause, mais ça reprend tout de suite la semaine prochaine. Ce sera le mardi. C'est ça, mardi 13. Du mardi 13 mars et mercredi 14 mars à Chambéry, à l'espace Malraux. Et puis ensuite, très légère pause, et puis ça reprendra samedi, vendredi, je crois que c'est le vendredi 16 mars à Belfort, et puis après à nouveau une très courte pause. En fait, à chaque fois, c'est le temps, je suppose, de démonter puis de remonter la scène ailleurs. Ce sera à Bourges, au MCB. Je coupe. Oui, Héloïse, une petite précision.
Et de voyager en camion, tout le décor et tous les musiciens.
Il faut voyager, effectivement.
Oui,
donc Bourges, et puis après Échirolles, on ne sera pas tout à fait à la fin mars, hein, le 23 mars, et puis Andrézieux le 24 mars. Des dates uniques, hein. Donc auditeurs, profitez-en pour, pourquoi pas, y aller et puis y retourner, hein. Vous pouvez aller le voir à la Croix-Rousse et puis y retourner à Oulin, c'est à côté. Les autres, eh bien ceux de Mérin, par exemple, ce sera une seule date le 27 mars, Saint-Quentin-en-Yvelines, une seule date le 30 mars, Bruges, une seule date le 28 avril, Rotterdam, une seule date le 25 mai, et Budapest, Armel Opéra Festival, une seule date le 5 juillet 2018. Tout ça, c'est en 2018. 2019, dont je parlais tout à l'heure, c'est pour Jesus Blood, Never Failed Me Yet. On pourrait peut-être l'écouter en générique de fin, parce que ça dure quelques minutes. Et puis, les annonces. Mercredi prochain, il était question de faire quelque chose avec l'auditorium pour Peer Gynt qui sera donné les jours suivants, mais ça ne se confirme pas encore. La semaine d'après, un peu de baroque, puisqu'il y aura de beaux concerts fin mars et début avril, et puis un peu plus tard peut-être Martin Luther King, ça te dirait, Gérald, d'en parler à l'émission? Oui, l'expo qui est à la Part-Dieu. Et puis ensuite, début avril, Philippe Forget, qui est chef d'orchestre et qui sera ténor dans une œuvre, un programme pour Satie au théâtre des Marronniers.
Si vous n'avez pas le courage d'aller voir ce spectacle, il y en a d'autres, dans d'autres lieux. Mais on va peut-être pas.
Rendez-vous sur le blog.
Rendez-vous sur le blog
pour en savoir davantage. On ne mettra pas d'extrait. Si vous souhaitez écouter cette œuvre, eh bien, il y a les extraits de la répétition. Sinon, il faut y aller. Voilà, il faut prendre le C13 ou n'importe le. Vous prenez le métro C, arrêt Croix-Rousse. Puis voilà, vous passerez un bon moment, un beau moment, et c'est très bien. Terminons donc avec Kevin Bryars, une composition qui est absolument stupéfiante. Jesus Blood Never Failed Me Yet. Le sang de Jésus ne m'a jusqu'à présent jamais manqué. Oui, enfin une œuvre qui dure ici 4 minutes, ou bien 10, ou bien 20, ou bien 30, ou bien 1 heure, ou bien dans un an, 12 heures. La nuit du 12 au 13 avril, cela sera toute la nuit, je ne sais pas quel ensemble jouera. Gérald, bonne fin de journée. Et Louise, au revoir. Oui, Gérald, encore un mot de la fin.
Bref, le sang a coulé comme un fleuve grand comme le Texas le long de son flanc. Nous l'avons lavé quand le sang a séché, ses yeux levés au ciel comme de la tourbe en feu.
Bon, fin. Il a commencé à chanter. Auditeurs, restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Le blues des Canus à venir dans quelques minutes. Et puis, méga combi à 18h, Canu Info à 19h. Et puis plein de choses encore. Là, c'est Tom Waits qui va arriver. Ciao, auditeurs. Bonne fin de journée. Au revoir tout le monde. Merci, Louise. Bye. Salut.
Au revoir.
Never found me yet. This one thing I know, only love is so. Jesus' blood never found me yet. Never found me yet. Jesus' blood never found. Never found me yet. Jesus' blood never found me yet. This one thing I know, only God. Jesus' blood. Jesus' blood.